Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans le podcast La Photo Aujourd'hui,
la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préférée, ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour.
Apprendre pour photo.
Je suis avec Thomas Moudi et avec Corentin Follen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler plein de choses de son œuvre. On est aussi dans la bibliothèque de l'Institut pour la photographie à Lille, qu'on remercie pour nous accueillir dans ce bel endroit que vous avez peut-être déjà vu avant, puis sinon il y a le lien quelque part ici. Corentin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter un petit peu et ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eh bien, je suis photographe, photojournaliste également, depuis presque 16 ans. Mon parcours, en gros, avant d'être photographe, je voulais être dessinateur, notamment dans l'illustration et la bande dessinée. Et puis j'ai découvert la photographie, je m'y suis plongé et j'ai commencé par couvrir les manifestations à Paris, comme un peu un exercice. Et puis je me suis pris au jeu, puis à l'intérêt, et à la dynamique et à l'information. Et donc j'ai commencé à travailler pour la presse, et je travaille toujours pour la presse. Beaucoup sur l'actualité au début, les premières années, et puis au fil en aiguille, au fur de mon évolution, j'ai plus travaillé sur du reportage, puis des projets documentaires, et en parallèle aussi des projets plus artistiques. Voilà. Les grandes lignes,
c'est bien. Okay. Non, on ne peut pas évoquer tous les sujets. Je trouve ça intéressant de te laisser la main, parce que, alors, on va parler d'Haïti un peu après, c'est ton plus gros morceau, entre guillemets, mais je sais que tu as beaucoup voyagé, tu as couvert beaucoup, beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui t'a marqué dans toutes ces années d'actualité dont tu voudrais parler ou que tu voudrais partager avec nous dans cette émission?
J'y pensais encore dans le train, là, en arrivant ici. Je pensais que j'allais essentiellement parler d'Haïti, mais... En fait, je me rends compte, c'est une multitude d'expériences qui sont toutes aussi passionnantes, différentes, et qui en fait, et c'est dur de résumer un seul. C'est comme un peu demander à un photographe, c'est quelle est sa meilleure photo, sa photo préférée. C'est dur et ça n'a pas de sens en fait. Et en fait, je me disais, qu'est-ce que je vais leur raconter? Que je raconte très mal, donc vous allez souffrir pendant une heure. non, mais je pensais à mon tout premier reportage en 2004. Parce que et après je raconterai, si on a le temps, c'est pour montrer un petit peu aussi l'évolution et un petit peu comment un photographe aussi peut, en fonction de son expérience, évoluer. Et mon tout premier reportage à l'étranger, c'était, ça faisait peut-être un mois ou deux que je travaillais pour une agence, une petite agence, Vostok Press, et j'avais couvert que les événements sur Paris. Et à cette époque, on parlait beaucoup de la crise des migrants qui passaient par, et des réfugiés qui passaient par Ceuta et Melilla. Donc c'est des zones, des enclaves espagnoles au Maroc. Mm-hmm. Et je vois ça aux informations, on en parlait beaucoup dans la presse, et je décide de m'y rendre avec le peu de moyens que j'avais. Donc j'ai pu me payer un billet d'avion et arriver sur place à Rabat. Enfin, même dans l'avion, en fait, j'avais tellement peu d'informations pour retrouver... Il y avait un camp de réfugiés, mais totalement informel, dans une forêt, perdue dans des collines, dans un endroit sans accès. Et j'avais juste demandé à un journaliste, un photographe du Parisien qui s'y était rendu, et il m'avait dit, c'est simple, tu prends un taxi de Rabat, tu roules pendant 3 heures, et puis quand tu arrives à la forêt, c'est le premier chemin à droite.
C'est la forêt du Maroc, donc c'est facile.
Ouais, sauf que voilà. Et donc j'avais ces seules infos qui étaient très sommaires. Et dans l'avion, je me suis dit, donc c'était mon premier reportage, la première fois que je prenais l'avion pour couvrir un événement, enfin en tout cas réaliser un reportage, et j'ai eu une crise, enfin pas une crise, mais une montée d'angoisse, et me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où aller. J'avais plus que 50 euros sur mon compte, enfin en poche, et quand je suis arrivé, ma carte bleue fonctionnait pas, je pouvais pas retirer d'argent, et je comptais rester 2 semaines, et j'avais que 50 euros, et j'ai juste eu de quoi payer le taxi, pour me rendre dans cette fameuse forêt, et j'avais plus d'argent. Et dans l'avion, c'était drôle parce qu'il y avait un autre gars qui venait. Non, c'était une dame qui venait retrouver son. Un homme qui est le. Attends, je pars dans des trucs.
Non, vas-y, c'est pas grave.
C'est pas grave, on coupera au montage. Mais parce que ça me revient maintenant, j'ai une mémoire déficiente, mais là, ça, déficiente, elle revient. Et cette dame, je suis à côté d'une dame, et pareil, elle était. Qu'est-ce que je fous là? En fait, elle quittait la France pour rejoindre un homme qu'elle a rencontré sur Internet. Et elle se dit, mais. Où je vais, quoi? Et j'étais dans la même situation. Qu'est-ce que je fous dans cet avion? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais photographier? Comment je vais. Voilà. J'ai fini par trouver ce fameux petit sentier de nulle part et effectivement croisé par hasard en marchant dans la forêt, c'était la tombée de la nuit, et là je vois une ombre furtive dans les arbres, enfin à travers les arbres, et c'était un des réfugiés, et j'ai pu voilà, nouer contact comme ça, et le premier soir je dormais sous la pluie, sur une colline, sous un buisson pour me protéger. J'ai pas dormi de la nuit et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en même temps, c'était une première expérience et c'était incroyable. C'était mon premier reportage. Donc ça, c'est un peu le, voilà. C'est vraiment marquant. Après, il y en a plein d'autres. Un qui me vient quand même facilement à l'esprit, c'est plutôt un reportage qui est plus traumatisant. Ça faisait quand même quelques années que je couvrais l'actualité et des situations difficiles. Et là, c'était pendant la révolution en Libye. Et je me suis retrouvé, avec d'autres confrères, collègues, en plein désert, sur une route qui allait qui allait tout droit vers les troupes de Kadhafi. Et j'étais du côté de la rébellion qui venait de Benghazi. Et là, en fait, pendant 3 jours, toute la journée, on attendait sous le cagnard. Et en fin de journée, les bombardements commençaient, ça tirait de partout, et là, tous les rebelles fuyaient, et nous, les journalistes, on restait pas longtemps non plus, et on partait. Et en fait, ça a duré 3 jours, et donc on faisait pas de photos, on prenait des risques énormes, et je me suis retrouvé dans une situation extrêmement dangereuse, à vivre ce qu'on peut voir un peu dans des films, c'est-à-dire les balles qui fusent, des avions qui bombardent avec des explosions qui tombent un peu et aucune possibilité de se protéger. C'était en 2011 et ça a été pour moi, au-delà du risque qu'on a pris, et ça a été pour moi un peu le début d'une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'être photographe de news, qu'est-ce que je raconte, pourquoi je fais ce métier, est-ce que c'est pas des risques inutiles, ou en tout cas voilà, qu'est-ce que. Donc ça a été le début vraiment, parce que grosse frayeur et parce que, c'était assez tétanisant. Et remise en question de ce que je voulais vraiment faire en fait en tant que photographe. Qu'est-ce que j'apporte quand on se retrouve à. Alors on n'était pas énormément de photographes, mais il y avait eu la révolution en Égypte avant, il y a eu énormément d'événements que j'avais couverts avant. Parfois on était une dizaine, cinquantaine, une centaine de preneurs d'images. Et là on se dit, mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je quitte la France pour aller dans ces pays que je ne connais pas? Et qu'est-ce que j'apporte? Voilà, quel est mon message? Quel est vraiment mon engagement? Et c'est à partir de là que, une grosse remise en question. Voilà, ça c'est un autre exemple. Après, il y a eu Haïti, qui est justement. En fait, cet épisode en Libye. Et puis, il y a eu aussi la perte de deux amis photographes, Lucas Dolega en Tunisie et Rémi Hochlik en Syrie, qui étaient arrivés juste avant et juste après. Donc, c'est une période aussi, voilà. Quand on est photographe et qu'on couvre des conflits, ça arrive et c'est cette remise en question. Et à ce moment-là que j'ai repensé à Haïti que j'avais couvert en 2010 et je me suis dit, lance-toi vers ce que, au fond de toi, tu pressens depuis un moment, c'est-à-dire faire plutôt un travail de reportage documentaire et avec une envie. De raconter ce qui me tient vraiment à cœur. Et voilà.
Alors, avant de creuser sur Haïti et d'embrayer là-dessus, j'ai juste une petite question, mais c'est un détail, mais c'est juste que moi, et je pense que derrière, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question aussi. Ouais. Comment tu t'en es sorti finalement au Maroc? Parce que si j'ai pas la fin de l'histoire, je vais pas dormir.
Tu dormais dehors et t'avais pas dormi.
Comment tu t'en es sorti finalement?
C'était vraiment catastrophique. Donc j'ai passé quelques jours, c'était en plein Ramadan. Bon, alors j'ai fini par réussir à retirer de l'argent au bout de 3-4 jours. Ma carte bancaire a été débloquée. Mais à l'époque, j'avais 200 euros sur mon compte, donc, mais ça me permettait de manger. Donc ça, sauf que c'était en plein Ramadan, il faisait 40 ou 50 degrés, donc pour trouver de l'eau et à manger dans la journée, c'était très compliqué. Et surtout, j'arrivais des semaines après, et l'actualité, mais c'est-à-dire, il y avait eu des vagues en fait de tentatives de passer les frontières, les barbelés et les grilles. Et ça faisait des semaines qu'effectivement il y avait plusieurs tentatives, donc les groupes de réfugiés, de migrants tentaient en fait par la force de passer. Et j'arrivais à une période où je me suis retrouvé où en fait cette situation s'était totalement arrêtée. Il y avait des camps qui étaient vides, donc je me suis retrouvé un peu à raconter l'absence, le vide. Et les quelques groupes de réfugiés, j'ai un petit peu discuté et photographié, mais leur quotidien. Mais voilà, j'étais parti avec cette idée un peu de ce que j'avais vu dans les médias et de ce que j'avais envie de raconter. Et finalement, la situation sur place avait évolué. Donc j'étais totalement à la ramasse, dans tous les sens, quoi. Donc j'ai... Voilà, je me souviens, les derniers jours, j'apprends dans la presse locale que le dernier camp, parce qu'entre-temps, ils avaient arrêté les réfugiés, ils les avaient mis dans des casernes et les expulsaient. Ils avaient affrété des avions. Et en fait, il restait un seul camp et il était à peu près à 800 km de là où j'étais. Donc j'ai pris un train de nuit. Je suis arrivé dans la ville, donc j'étais au nord-est, je me suis retrouvé au sud-ouest. Et je suis arrivé, je suis passé devant le camp. Et au moment où je suis passé, ils étaient en train d'affréter le dernier bus, tout dernier bus du dernier avion. Et ensuite, il ne se passait plus rien. Et donc j'ai eu, entre guillemets, dans mon grand malheur, j'ai eu cette chance de pouvoir monter dans le bus avec eux, déposé sur le tarmac, de pouvoir photographier la manière dont les réfugiés étaient placés dans l'avion et voilà, le départ de l'avion. Donc voilà, sinon j'avais quasiment rien à montrer, à raconter. Et voilà, ces images, j'ai rien vendu après, je les ai diffusées en agence, mais voilà, c'était... Ouais. Non, c'était un peu... C'était plein de déboires, mais c'était pour moi aussi... c'était une super école de débrouille, de réflexion, et puis d'apprentissage, en fait.
C'était initiatique, un peu.
C'était vraiment le reportage initiatique. J'en ai eu d'autres après. Pas aussi catastrophique, mais voilà, plus à... Forcément, on apprend de ses erreurs, si je veux sortir un gros poncif. Mais voilà, c'est vraiment, effectivement, au début, on ne connaît rien, on n'a pas de contact dans la presse, on n'a pas d'argent... On n'a jamais vécu ça, donc c'est... Mais c'est comme ça que... Enfin, quand on pense aux tout premiers reportages de Patrick Chauvel, c'était à Jérusalem, il a raté toutes ses... Il avait 19 ans, il a raté toutes ses photos. La seule réussite sur son boîtier, c'est lui qui raconte ça, c'est génial. La seule réussite, c'est parce qu'il a donné son boîtier à un soldat israélien pour qu'il le prenne en photo. C'est la seule réussite. Mais voilà, ça c'est son tout premier reportage, il avait 19 ans, il n'avait jamais fait de photo. Et voilà, ça, c'est... Je pense qu'on a tous des histoires un peu comme ça. Là. Voilà. Je t'en prie.
Moi, je rebondis sur... Alors, parce que tu nous as raconté plein de choses, je rebondis plus sur la fin de ce que tu nous as raconté, où voilà, tu te poses des questions un peu sur le... Voilà, il y a 50-100 photo-reporters sur place.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que j'ai raison si là-dedans, j'entendais un côté... qu'est-ce que j'apporte de plus que les autres qui sont là? Quelle est peut-être ma légitimité, moi, arriver dans un pays que je ne connais pas du tout, sur lequel finalement j'ai juste on m'a envoyé sur place parce que ouais. Quelque chose se passe, mais je n'ai ouais. pas de lien particulier avec le pays. Et du coup, comment je peux le représenter de manière juste? Est-ce que c'était un petit peu ça que je dis derrière?
Tout à fait, ouais. C'est oui, quelle est ma prétention quand on ne connaît pas la langue, pas le pays, on a peu de réseau? On est indépendant, on n'a pas de moyens, on se débrouille. Ça peut paraître étonnant, mais parfois, quand on est au cœur de l'actualité, on est moins bien informé que quand on est chez soi, à Paris, sur Google, parce qu'en fait, on peut avoir accès à plein d'informations que plein de journalistes font remonter. Mmh. Et moi, parfois, sur des événements, j'étais dans une rue, et mon point de vue, il est du début de la rue à la fin de la rue. Après, je peux bouger, mais je veux dire, ma perception de l'événement, elle est basée, elle est parfois biaisée. Elle est parfois plus réaliste que ce qu'on peut lire dans la presse, parce qu'effectivement, souvent, la médiatisation enjolive ou aggrave ou simplifie, enfin, par nature simplifie, mais parfois caricature. Et quand on est sur le terrain, on dit, mais les gars, franchement, qu'est-ce que vous racontez ? Mais parfois aussi, en étant sur le terrain, on va se focaliser sur une situation qui ne correspond pas à... On n'est pas capable d'appréhender toute la ville, tout le pays, par exemple. Quand on est honnête et qu'on se remet un peu en question, on se dit, mais ouais, c'est vrai. Et quand on se retrouve avec 50 photographes, alors certes, à l'époque, j'ai vendu, donc je ne faisais pas des images juste pour mon propre plaisir. Il y avait du sens, il y avait une destination. Et j'aurais arrêté si je n'arrivais pas à les vendre. Mais on se rend compte aussi qu'il y a de très très bons photographes locaux et de plus en plus. Cette question que je la formalise clairement maintenant, mais c'est vrai que sur mes premières années, c'était encore une période, c'était le numérique était assez récent. Donc il y avait encore pas mal de photographes, et souvent occidentaux, qui partaient, qui étaient envoyés, ou d'indépendants comme moi qui partaient, qui s'envoyaient soi-même. Dans des pays où voilà, il n'y avait pas forcément énormément de... pas autant que maintenant de couverture photographique. Et maintenant, effectivement, avec le numérique, n'importe quel... Enfin, on est dépassé par la rapidité de l'information et le temps qu'on réfléchisse de Paris, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, le temps d'y aller, le temps... Et puis sur place, on est déjà totalement... dépassé par la situation.
Puis les locaux documentent, j'ai l'impression, de plus en plus les événements et les diffusent sur les réseaux sociaux. Je me souviens du... c'était il y a un an en Algérie, pour la présidentielle, quand Bouteflika voulait se représenter, il y a eu des émeutes, c'était il y a une année, c'est ça. Et déjà, sur les réseaux sociaux, c'était très présent. Et la production, elle était locale et c'était les acteurs qui produisaient leurs propres images.
Exactement. Et la qualité est tout à fait plus que correcte, même parfois meilleure, enfin aussi bonne, voire meilleure que les photographes professionnels de France ou voilà, et surtout elle est plus pertinente, c'est leur pays, leur ils ont les réseaux, en fait ils connaissent, ils s'adaptent, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est vrai que la question se pose effectivement en tant que photographe français, européen, blanc, avec quel bagage j'arrive dans un pays et quelle vision je vais avoir et comment je vais raconter cette situation, quoi. Et l'actualité, pour ça, est très... Alors, je ne remets pas du tout en question les photographes qui couvrent l'actualité. Je continue de le faire de temps en temps. C'est essentiel et c'est vital. Mais il y a des situations où... Mais même à Paris, hein, sur la couverture des Gilets jaunes, par exemple, où il y a une centaine de photographes, voire plus. Il y a plus de photographes, parfois, que de manifestants. On gêne les manifestants, on gêne les forces de l'ordre. On est parfois acteur ou vecteur d'une situation. Et donc, effectivement, et je comprends pourquoi il y a autant de photographes, je sais pourquoi il y a autant de photographes, mais effectivement, on se pose la question de qu'il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que la photographie, même d'information, ne doit pas aussi évoluer et sortir du fantasme ou du cliché ou du photojournaliste qui, des années 60, tu vois, qui partait, qui prenait le premier avion, qui débarquait, qui restait une semaine ou un mois et qui rentrait.
Parce que moi, j'ai filmé sans savoir ce qu'il y avait dessus.
C'est
romantique, finalement. Quoi.
Voilà, et moi, le premier, je me suis construit avec ce fantasme, cette vision. Et dès le début, quand j'ai commencé il y a 16 ans, c'était déjà plus la réalité. Ça fonctionnait déjà plus comme ça. Donc... voilà, c'est le stéréotype du photographe de guerre, qui d'ailleurs, aucun photographe ne vit que que en couvrant des conflits. La plupart des photographes passent de la mode à du corporate, à un reportage de conflits, mais à un reportage qui se passe en France, à des portraits. Enfin, on est obligé de s'adapter et c'est bien, ça enrichit aussi la réflexion. Lance-toi, vas-y.
J'ai pris des gros paragraphes, il faut que je m'en souvienne.
Ah ouais, non. Tu peux résumer.
Non, mais tout simplement, de toute façon, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Il y a tes trois livres sur Haïti sur la table.
Ouais.
C'est ce que tu dis dans le premier livre, c'est que Haïti, t'as été loin de l'image des clichés qu'on véhicule dessus, parce que tu as été beaucoup de fois, etc. Bah, pourquoi tu t'es lancé dans cette démarche? Qu'est-ce que ça apporte à ta photographie? Comment t'as travaillé sur ce pays, qui est un pays particulier quand même? Qui est loin de nous, qui a vécu des drames, qui a une histoire particulière liée de colonisation, tout ça. D'où c'est venu, comment ça s'est passé?
Ouais. Haïti, je ne connaissais pas avant le drame du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Je l'apprends comme tout le monde dans les médias, et à l'époque, j'étais à l'affût des de gros événements d'actualité sur lesquels je pouvais partir. Et donc, ça, c'était vraiment une situation qui a été énormément... qui a profondément touché les Français, parce qu'il y a un lien très fort avec la France. Et donc, on en parlait beaucoup. Et j'ai réussi... j'arrive sur place 5 jours après le tremblement de terre, mais j'y reste très peu. Toujours ce problème, c'est j'avais pas le moyen. Le moindre trajet de 300 mètres en moto coûtait 20 dollars. Je connaissais pas du tout la ville, le pays. Donc je sentais que j'étais au bout d'une semaine, j'étais complètement à la ramasse. Je voyais dans ce que les confrères faisaient des grandes agences, qu'eux, ils arrivaient à photographier, à raconter ce que moi, je... Enfin voilà, j'étais un peu perdu, donc je suis resté une dizaine de jours, et c'est ma première expérience avec le pays. Mais c'est la première fois aussi, 2 mois après, qu'un magazine La Vie, qui m'envoie en commande à l'étranger. Et à l'époque, pour moi, c'était la première fois que j'avais une commande à l'étranger. Donc c'est quand même plus... facile, on nous paye le billet d'avion, l'hôtel, sur place, on nous paye le chauffeur. Et voilà. Et donc j'y passe un mois, je décide, parce que le commande était 10 jours, et à l'époque je reste avec ma copine qui était journaliste, et on décide de raconter déjà la situation. On en parlait encore beaucoup dans les médias français, c'était vraiment un événement qui, dans l'année, a vraiment marqué. Et puis, une autre occasion d'y retourner au cours de l'année, une commande. Et puis, il y avait les élections en fin d'année. Donc, j'y vais, mais à chaque fois dans le but de raconter toujours par le vecteur de l'actualité, d'un événement qui se passe hors norme dans le pays. Et à force d'y aller, je découvre un peu le pays, je m'intéresse à sa culture, à son histoire, etc. Ce qu'à présent, je ne faisais pas, en fait. J'allais dans un pays, je restais quelques semaines et je repartais. Quand justement, au moment de la révolution en Libye, je me pose vraiment la question je me remets vraiment en question dans mon travail, je repense à Haïti et je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai senti dans ce pays, il y a plus à raconter que cette vision misérabiliste de drame, de violence, de maladie, cette vision d'île maudite que j'ai lue et vue dans la presse. Et je sens qu'il y a autre chose à raconter. Et je me dis, vas-y, tu pars un mois, il n'y a pas d'actualité, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu y vas en fait. En fait, je me pousse vraiment au cul parce que je me dis, fait des mois et des mois, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. C'est vraiment une remise en question de mon travail et d'avoir du sens dans l'engagement. Et j'y passe un mois et je commence un peu à passer du temps, même à perdre du temps, à rencontrer des gens... À me balader dans tout le pays, pas que à Port-au-Prince, où souvent la majorité des reportages sont faits, et c'est une capitale qui, comme beaucoup de capitales, concentre aussi des thématiques qui sont vite stéréotypées. Et en fait, j'y retourne 3 mois après, j'y retourne à la fin d'année, et en fait, et à chaque fois j'y retourne parce que j'ai commencé à construire, à raconter quelque chose, et j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà. Et en fait, c'est venu vraiment naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas commencé en me disant bon voilà, je vais travailler 10 ans sur le pays, je vais faire 4 livres, je vais faire des reportages que je vais vendre, des expos, etc. Je travaille beaucoup à l'instinct, et c'est aussi pour ça que parfois je suis totalement à la ramasse, parce que on sent les choses. Je prépare pas beaucoup et j'y vais en fait. Et ça, c'est un peu l'école du news. C'est on sent quelque chose, on y va. Et on s'adapte sur place. Et j'ai fait un peu ça en Haïti, mais avec du temps. Et en fait, comme je payais moi-même mon voyage, parce qu'aucun magazine m'aurait envoyé plus d'une semaine. Et pas pour faire un sujet où je vais aller me balader pour voir ce que je peux raconter de différent. Et ouais, en général, on m'a envoyé toujours sur des sujets humanitaires. Et je comprends. Mais c'est terrible parce qu'on a toute la presse et on continue de résumer ce pays uniquement vers une vision d'humanitaire. Et j'ai essayé de voir plutôt une vision d'humanité, c'est-à-dire je découvre une richesse culturelle, artistique énorme. Je découvre qu'en fait, les Haïtiens ne sont pas du tout un peuple qui est dans l'attente d'être aidé, qui même refuse l'aide humanitaire qu'on leur envoie.
C'était assez dur d'ailleurs dans le premier livre que tu as fait dessus, sur le tourisme humanitaire, etc. C'est assez cinglant. Hein, quand on...
Et je découvre effectivement qu'il y a un business de la charité et de l'humanitaire, et il y a des abus qui sont faits. Donc là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut raconter. C'est pas du tout, mon Dieu, c'est terrible, ces pauvres petits noirs qui souffrent de faim. Je caricature exprès, mais parfois, c'est vraiment rendu comme ça. Non, en fait, c'est un peuple fier qui a une histoire incroyable, qui a été un pays qui a été au centre du monde quand ils ont pris leur indépendance en 1804, qui a été boycotté par les États-Unis et par énormément d'autres pays, enfin, et par l'Europe, parce que c'est les premiers peuples noirs d'esclaves qui se révolte, qui bat les troupes de Napoléon et qui prend qui crée une république. À l'époque, on se rend pas compte.
Symboliquement,
c'était dévastateur pour toutes les colonies qui s'enrichissaient sur le dos des esclaves dans toutes les colonies qui existaient. Et donc, c'est un peuple qui a une histoire. Qui en a conscience, qui est fier. Et ça, je le vois en fait sur le terrain. Je me dis, mais c'est pas possible de pas essayer de raconter ça. Donc, j'ai exploré le pays. Je suis allé voir les vestiges des forts qui ont été construits après l'indépendance. J'ai rencontré les artistes, les intellectuels, les entrepreneurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait c'était en 2012. Il y avait une tablette numérique qui était fabriquée, qui était assemblée, qui était made in Haïti, qui était fabriquée dans ce pays. Alors, c'était la seule. C'est la seule entreprise de technologie, mais il y en a une. Je me suis rendu compte que le lien, la dépendance, l'interdépendance avec les États-Unis est extrêmement importante parce que les États-Unis, pendant longtemps, et encore un peu maintenant, mais il y avait des intérêts soit géostratégiques, soit aussi économiques, parce qu'il y a de l'assemblage textile qui est fait sur place, c'est une main-d'œuvre facile et pas chère. Il y a aussi une bourgeoisie extrêmement riche que j'ai un petit peu côtoyé
ils se cachent, tu disais.
Oui, bien sûr, parce que c'est dangereux un pour eux, c'est tabou, c'est un peu la honte, c'est un peu l'héritage aussi de la colonisation. Et ça, tu peux pas le raconter si tu viens une ou deux semaines, il faut passer du temps. Et surtout en Haïti, où c'est extrêmement compliqué, extrêmement long d'avoir les informations, d'être accepté, de rencontrer les gens, d'arriver à trouver la photographie qui va raconter ça. Quoi. Parce que parfois, raconter l'histoire, c'est compliqué pour un photographe. Nous, on raconte le présent, tout le temps. Et puis, c'était aussi, en même temps, pour moi, une nouvelle approche. J'étais plus à couvrir des manifestations, à couvrir des conférences de presse, des révolutions, des choses qui se déroulent dans le sens de... dans la définition de ce qu'est la médiatisation, tu vois. Et donc j'ai aussi appris à prendre mon temps, à réfléchir, à prendre du recul, à me poser les questions, les bonnes questions, etc. Mais c'est vraiment pour moi important parce que je me suis pris de passion, et pour le pays, et pour les gens, mais aussi pour cette manière de raconter. Pour moi, c'est mon travail le plus engagé, en fait, beaucoup plus que de couvrir une révolution, que montrer des violences... urbaine ou une crise alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire c'est fondamental de le faire. Mais moi, mon engagement, il a été largement plus présent et en plus efficace sur Haïti. Parce que quand on couvre l'actualité, en fait, on dépend totalement de la médiatisation qui nous échappe.
Et des journaux qui payent ou pas.
Et des journaux qui décident d'acheter ton reportage ou juste une photo d'illustration. Et souvent, mes photos, elles servaient à illustrer un propos que je ne maîtrisais pas, que j'apprenais en lisant, en recevant le journal. Ah tiens, ma photo illustre telle problématique, tel angle d'attaque du journaliste. J'étais plus illustrateur d'actualité. Mais en tout cas, voilà, sur Haïti, c'est la première fois que j'imposais aux journaux une vision du pays. Ça, c'est ma plus grande fierté, c'est-à-dire d'avoir réussi ça. Les journaux avaient une vision d'Haïti qui était souvent la même. Et en France, j'ai réussi à imposer dans le sens où, à leur dire, voilà, moi j'ai un reportage, mais c'est cet angle, ça raconte ce pays de telle manière. Et si ça vous intéresse, voilà. Et souvent, j'ai même écrit, c'est la première fois que j'écrivais aussi, des petits articles, parfois longs même, parce que j'étais tellement... j'avais tellement la maîtrise et j'avais tellement
une vision particulière, parfois aussi subjective, engagée. C'est la première fois que j'étais vraiment à ce point-là engagé avec un point de vue, c'est-à-dire effectivement le tourisme humanitaire. D'autres journalistes pourraient y voir quelque chose de merveilleux. Dans ce cas particulier, je parle des ONG américaines qui sont liées à des églises évangéliques et qui font un peu qui font payer des Américains qui viennent découvrir qui viennent voir un peu la misère et faire de l'humanitaire pendant une semaine à la carte. Et ça, ce sujet, clairement, quand je l'ai fait, c'est que moi derrière, j'avais un propos qui était en fait, c'est scandaleux et je vais le dénoncer.
Surtout que tu dis que pour certains, c'est la première fois qu'ils sortent des États-Unis. Enfin, donc c'est vraiment. C'est
beaucoup d'Américains qui sortent. Enfin, ils ont assez peu de passeports. Les Américains.
Oui, ouais, bien sûr.
Et ouais, c'est intéressant. Je rebondis sur quand tu dis que c'est ton travail le plus engagé. Je trouve ça intéressant parce que dans plus engagé, j'entends aussi peut-être celui le plus proche de la vérité. Bon, on met des guillemets toujours autour de vérité, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où.
Ouais.
Ouais, je mets beaucoup de guillemets autour de vérité, mais.
Tu peux en mettre plein.
Et ce que je veux dire, c'est qu'avec l'opportunité de faire ça sur un temps long et de traiter différents aspects d'un sujet, tu as quelque chose qui forcément. Eh ben, tu traites plus
le réaliste.
Différent. Voilà, c'est plus
réaliste.
C'est plus réaliste. Ouais. Et c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, avant de savoir qu'on te parlait, donc pour le coup, vraiment, c'était pas volontaire, mais qui partait de photos de manifs pour les droits des Noirs aux États-Unis, que ce soit les récentes ou un peu plus anciennes. Et pour dire aux gens, bah oui, vous avez une photo, mais une photo, elle peut, entre guillemets, mentir de plein de façons différentes, même si à la base, tu coupes quand même un bout de la réalité. Mais au final, il y a plein de manières de couper consciemment ou inconsciemment pour montrer quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression que finalement, il n'y a qu'un travail sur un temps long comme ça qui peut permettre de montrer quelque chose qui va être plus réaliste, comme tu disais, où tu vas pouvoir montrer plein d'aspects différents, comme tu le fais dans Haïti, où vraiment, on va traiter... différents aspects d'un problème, et je pense que c'est là finalement qu'on commence à avoir une vision un peu, parce que même tu dis effectivement je suis content d'entendre que tu as pu vendre le reportage à des reportages à des journaux sur des angles particuliers, mais dans le livre vraiment on l'ouvre à la fin, on a une vision qui est plus du tout celle des journaux, quoi.
Ouais.
J'ai pas vraiment de questions.
Faut que je sois pertinent. Non mais c'est ça qui était et c'est ce qui était assez au-delà du fait que j'avais l'impression, effectivement, d'être plus réaliste, c'est qu'effectivement, ce qui est génial, j'ai de la chance, parce que j'aurais pu ne pas vendre, en fait, puisque je sortais un peu des clichés. Et là, en fait, la presse a suivi, c'est-à-dire... Et c'est ça qui est assez... C'est là où tu vois... Et d'ailleurs, je pense qu'ils m'ont publié, non pas parce que c'était moi et non pas parce que c'était Haïti, mais parce que... Je pense, ils ont vu ce qui les intéressait, c'est que c'était notre vision qu'on avait d'un pays. C'était un peu cette déconstruction des clichés. Et c'est ça, en fait, qui fait que j'ai pas mal vendu ce travail. C'est cet angle qui les intéressait. Et j'ai trouvé ça hyper rassurant en me disant, mais en fait, on critique souvent la presse, parfois à juste titre, en disant oui, elle publie toujours la même chose, c'est toujours une vision stéréotypée. Alors, en plus, quand on dit la presse, c'est quoi? C'est BFM ou c'est le Canard Enchaîné ou c'est le Monde Diplomatique ou c'est Cosette? Enfin, on parle de quoi? Mais effectivement, parfois, on dit oui, les journaux sont un peu fainéants, ils prennent toujours les mêmes sujets, quoi. Et en fait, pour moi, c'était la preuve que non, justement. On pouvait contrecarrer tout ce qu'ils avaient en plus déjà publié sur une vision effectivement beaucoup plus dramatique d'Haïti, quoi. Qui n'est pas fausse non plus.
Mais qui n'est pas tout, quoi.
Mais c'est pas tout.
C'est un bout.
Et mon livre Haïti, il ne raconte pas Haïti dans son ensemble, il raconte une vision que j'ai moi. Et je mets effectivement, j'assume totalement ce travail où je mets de côté la pauvreté qui est un vrai problème. Les violences, qui est un vrai problème, les problèmes sanitaires, l'accès à la santé, aux soins, à l'éducation, qui est un vrai problème et qui existe. Mais
tu parles quand même des professeurs dont la plupart sont incompétents.
Mais ouais,
mais qu'il y a quelques bons.
Mais effectivement, mais je parle d'un collège qui est hallucinant. J'ai parlé avec son directeur le directeur de ce collège et qui a une pédagogie incroyable, collège Casse-Pressoir. Qui est un modèle que même en France, on pourrait envier. Alors qu'effectivement, l'éducation nationale en Haïti est catastrophique et le niveau scolaire est dramatique. Mais je me suis dit, mais il y a ça. Et, 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 Et on critique souvent la presse qui ne parle que des mauvais côtés. Et pour moi, c'était un peu une manière aussi de pas de rendre hommage, mais de remettre un peu Haïti, de rendre un peu justice à. C'est un peu pédant, un peu fort, mais c'est-à-dire de contrebalancer en fait tout ce qu'il y avait à côté, quoi.
Tu as mentionné ton livre. Ouais. Tu n'es pas sans savoir qu'on a interviewé ton éditeur il y a quelques temps.
Ah, oui, c'est ça.
Oui, on l'a interviewé. Et du coup, lui, il a fait le livre. On n'a pas ton point de vue dessus. Et à la fin, tu dis merci à Eric d'avoir accepté toutes mes lubies, d'avoir supporté mes lubies. Du coup, oui. Qu'est-ce que ça a été la production de ce livre? Quelles sont tes lubies? Qu'est-ce que tu voulais pour ce livre?
J'ai dit lubies.
Je garde. C'est le mot que j'ai retenu, mais c'est pas, je ne mettrai pas ma main à couper.
Quand on est photographe, on est forcément. On est forcément taré, quoi. On a forcément une vision de... Oui, s'il te plaît, recoupe tes sources.
Un grand merci à mon éditeur Eric Lebrun des éditions Leitmotiv pour avoir supporté mes exigences et mes lubies et pour avoir accepté de m'éditer et me suivre durant tout ce projet.
Exigences, d'abord. J'ai mis avant. C'est quand même une question d'exigence. Ouais, non. Lubie, ça peut être... tu vois, c'est... Ça
c'est tes mots, hein. Je...
ouais, mais bon... pas croire tout ce qu'on lit dans les livres. non, mais oui, parce que j'avais, parce que je voulais justement un livre. Je voulais dans ma tête, je voulais un fond noir, je voulais des lettres en or. Je voulais. Enfin, il y a plein de choses que j'avais en tête et que j'avais envie. Et aussi, voilà, et donc des choses qui sont parfois de l'ordre du détail. Et quand on fait un livre, c'est ça qui est génial, c'est qu'on on prend son travail, on le réduit quand même au minimum, et on essaye d'en faire un nouvel objet, quoi. Moi, je voulais pas faire juste un book ou un portfolio de mes meilleures images, les plus belles et les plus intéressantes. C'était mon premier vrai sérieux livre. Et j'avais envie que ça... Enfin, voilà, il y avait énormément d'importance à ce que... et que ça soit sur Haïti. Après autant d'années et autant de séjours dans le pays, voilà, je voulais vraiment le chiader. Je voulais qu'il y ait quelque chose de qu'on sente justement déjà par la prise en main, que ce côté un peu précieux, on allait parler plutôt des trésors d'Haïti plutôt que... voilà.
Et pour l'avoir lu, je trouve que c'est intéressant parce que... en fait, d'entrée de jeu, on comprend ton point de vue du fait d'avoir donné tout de suite la parole à un Haïtien qui écrit la préface. Et d'entrée de jeu, ça choque, c'est pas un professeur de fac européen qui est un géographe qui écrit l'intro, etc., du livre. Tout de suite, je trouve qu'on a vraiment cette valorisation de la culture locale et on sait déjà d'entrée de jeu. Je trouve ça très efficace.
Ouais. Et oui, parce que justement, c'est toujours un peu, on revient un peu ce que je disais sur l'actualité, mais c'est toujours le point de vue des gros médias qui sont souvent occidentaux. Sur un autre pays. Et donc, quand tu es journaliste, quand tu es photographe, tu sais que, enfin, si tu es un peu honnête avec toi-même, tu sais que ta vision du pays ou d'une situation ou d'une culture, même sans photographier l'actualité, mais quand tu pars dans un pays et que tu photographies des coutumes, tu sais que c'est ta vision à toi sur ce pays. Peut-être qu'elle ne serait pas la même. Et ce qui est toujours ce qui reste intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est quand un étranger vient raconter la France. Voilà. Et donc là, je voulais, dans ce livre, qui est un texte, l'introduction, c'est James Noël, qui est poète haïtien, et la postface, c'est Jean-Marie Théoda, qui est un géographe haïtien, qui a été aussi enseignant à la Sorbonne. C'est important que, voilà, il n'y a pas que, ok, encore une fois, les propos d'un Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont raconté sur Haïti. C'était bien de redonner un peu la parole aussi aux Haïtiens, quoi.
Moi, j'ai quelque chose qui m'a pas mal marqué dans le livre, c'est que, à la fois, c'est clairement un livre qui a eu une approche de reportage, enfin, ne serait-ce que déjà sur le sujet. Ça s'appelle Haïti, ça n'a pas un titre plus lyrique, on va dire, donc c'est clair. Et en même temps, sur le traitement en plusieurs parties qui montrent vraiment des aspects qui sont clairement délimités avec un petit texte d'intro, etc. Machin. Et en même temps, esthétiquement, je trouve que tu as des compositions qui sont quand même très soignées, parfois presque minimalistes, tu vois, et qui, je trouve, s'éloignent un peu du style documentaire. Bon, je mets plein de guillemets autour parce que c'est un peu large, mais je pense que tu vois ce que je veux dire par là. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est arrivé avec ce travail plus long terme, justement, où ça t'a peut-être permis de travailler différemment photographiquement et visuellement? Est-ce que c'est un truc qui a peut-être déjà commencé avant?
cette façon de photographier, je pense qu'elle a plusieurs raisons. Déjà, effectivement, la plupart du temps, il n'y avait pas d'événement qu'en tant que journaliste, photojournaliste, on pourrait couvrir. Donc j'avais cette liberté de pouvoir raconter, de choisir ce que je montrais et pas être omnubilé par une situation, un événement. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'était quand même compliqué de... pour moi, de tous les pays que j'ai visités, couverts et photographiés, c'est Haïti le plus difficile à photographier. Et parfois, je me dis, mais pourquoi je me suis entiché de ce pays? C'est horrible, c'est ingérable. La lumière, elle est pourrie toute la journée. C'est un soleil plombant. C'est photographiquement parlant, en termes de qualité, c'est compliqué à gérer. Il y a un rapport à la photographie qui est très compliqué, les Haïtiens. Et je les comprends. Il y a eu énormément de médias en 2010, et ils ne peuvent plus voir, ils ne peuvent plus cadrer un photographe. Ils ont beaucoup d'animosité. Quand tu es dans la rue, c'est très compliqué. L'approche de la photo de rue en Haïti, c'est très compliqué. Il faut passer du temps, expliquer pourquoi on est là, etc. Ce qui est parfois incompatible avec la photo de rue, où on est discret, on disparaît et on saisit des instants. Donc c'est vrai que c'était quand même assez laborieux, et donc j'avais quand même je devais faire avec. Et puis après, comme je te disais, il y avait des thèmes qui sont plus complexes ou plus subtils. Et donc ça m'a aussi appris à avoir peut-être une photographie peut-être plus subtile que ce que je pouvais faire quand on fait du news, c'est sûr. Mais sans être, j'ai pas non plus. C'est pour moi, surtout sur Haïti, j'ai une photographie qui est très classique. Hein, j'ai l'impression que c'est très du photojournal. Photo-reportage, tu vois. Enfin, je sais pas exactement ce que... Non,
Après, c'est une sensation, tu sais. Donc, ouais. C'est difficile d'expliquer exactement ce que je vois dedans. Mais moi, je trouve qu'en termes de composition, il y a des choses qui étaient très... tu vois, c'est soigné, il y a un côté... tu vois, parce que c'est vrai que dans la news, l'impression que j'en ai, en tout cas, c'est que, tu sais, dans la situation, il y a plein de choses qui se passent, il faut un peu saisir les choses. Ouais. Et du coup, la composition est finalement plus intuitive. Ouais. Tu vois, dans le sens où tu vas peut-être être au grand angle au milieu de la foule et il y a un truc qui se passe, tu saisis le truc, tu vois. Et là, il y avait des moments où c'est plus, tu sais, on a un côté peut-être pile face à un mur ou un truc un peu plus géométrique.
Ouais, mais je pensais à Alex Webb par moment.
Qui a travaillé sur Haïti. Donc effectivement, il y a cette couleur et cette... j'ai un peu cette... mais je l'ai quand je fais du news... Quand je dis que j'ai une photographie classique, c'est je suis obsédé par la composition. Mais même sur une manif où ça court de partout et j'ai la même réaction, la même façon de photographier que quand j'ai le temps, il se passe rien et je suis tout seul. Dans ma tête, ça fonctionne pareil.
C'est aussi un peu là que je voulais parce que c'est vrai que moi ça m'a vraiment marqué sur Haïti, qui est vraiment par là que j'ai découvert ton travail. Ouais. Finalement, la première fois que j'ai vraiment vu tes photos. Posé, c'est en ouvrant Haïti, et au fil des pages, je me dis, la composition est quand même... Moi, c'est ce qui m'a visuellement... Ouais. Après, t'as le propos, mais visuellement, c'est ce qui m'a marqué le plus, donc ça m'intéressait de creuser un petit peu. C'est intéressant que ça t'arrive aussi, même dans des situations plus...
Pour moi, c'est pareil. Mm. Quand je photographie mon fils, ou sur une manif, ou je fais un portrait, ou sur un travail de long terme, ou sur un conflit, plein de fois, je me suis dit, mais j'ai la même... obsession de réfléchir à l'image. Bien sûr que, du coup, je m'adapte à la situation, mais c'est le même processus pour moi.
Ok.
Voilà.
Ça marche. Merci.
Alors, j'ai parlé de l'éléphant dans la pièce tout à l'heure. Maintenant, on va mettre les deux pieds dans le plat pour des expressions très figurées. Corentin, on sait que tu es assez actif pour défendre la condition des photographes. Je t'ai vu élever la voix sur Internet sur... les concours photos, donc tu étais ouvertement critique avec eux. La photographie politique, assez récemment.
Certains
concours photos, on va parler payants, etc., où on se fait un peu d'argent sur le dos des photographes. Aussi, sur la photographie politique, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça de comment étaient traités les photographes. Du coup, dans l'audience d'apprendre la photo, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la photographie comme amateur, d'autres qui veulent... c'est un monde qui est assez loin de moi et des abonnés. Du coup, c'est quoi être photographe de presse aujourd'hui? Comment on est traité? Pourquoi il y a besoin d'améliorer cette situation et pourquoi il y a besoin d'élever la voix de ta tribune dans l'IB et tout ça?
Oui. Bon, je suis parfois une grande gueule et... oui, je sais que ça énerve, mais je pense que c'est quand même important, même si je le fais, je sais, je reconnais, mais à coup de bas, je le fais pas forcément bien parce que je le fais d'un coup D'un coup, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et donc, je balance, et c'est le piège des réseaux sociaux, c'est que d'un coup, il y a tout un propos, et avec des mots qui sont pesés, mais qui sont importants. Mais je pense que, déjà, juste, je fais une aparté, mais moi, si je fais ce métier, c'est et pour la photographie, c'est-à-dire l'art de capturer l'image, mais aussi pour un engagement, c'est-à-dire j'ai une vision dans tout ce que je photographie, j'ai toujours un point de vue et un propos, j'ai toujours, ça ne veut pas dire que c'est engagé au sens militant, mais il y a quand même j'ai quand même, c'est pour raconter quelque chose et pour et de ce que je raconte, essayer de changer les choses, essayer de faire réfléchir, essayer de déconstruire, etc. quoi.
Et
ben non, enfin, je dirais pas éthique parce que ça, c'est tout de suite prétentieux et je suis loin de vouloir faire la leçon de morale. Mais en fait, je me dis, après 16 ans, ça fait 16 ans que je fais ce métier. Et surtout quand t'es journaliste, tu critiques toujours tout le monde. Et à un moment donné, il faut se remettre en question ou remettre son propre, son métier ou son milieu, en fait. Et puis il y a des choses aussi que tu vois et tu te dis, mais c'est pas possible. Bon, on sait tous que la photographie est en crise. Moi, j'ai commencé ce métier, on m'a dit, mais laisse tomber, arrête le news, ça marchera jamais, c'est la crise. Le reportage, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de commandes, laisse tomber, arrête. Donc, voilà, c'est un métier qui est en crise. Il y a beaucoup de photographes qui galèrent. Il y en a de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de photographes. Il y a de moins en moins de moyens. Par contre, il y a encore il y a encore de la place pour la photographie. On n'a jamais été demandeur de photographie. Et ce que je vois année après année, c'est que la photographie n'a jamais été autant montrée, utilisée, exposée, projetée, éditée. Mais l'élément principal, le vecteur de ce métier, c'est le photographe. Et le photographe n'a jamais été autant utilisé. C'est toujours le dernier qui de la chaîne économique. C'est-à-dire que le métier est en crise, mais la photographie, elle n'est pas en crise. Elle n'a jamais autant rapporté de pognon. On n'a jamais vu autant d'images, de production d'images, que ce soit sur les GAFA. Tu vois, sur Instagram, je crois que c'est, je ne sais plus, il y a 1 milliard d'images par jour.
C'est ordre de grandeur, en tout cas.
Ouais, entre 500 millions et 1 milliard d'images produites par jour, diffusées sur Facebook, Instagram et Twitter. Et ça rapporte de l'argent, mais pas aux photographes. On n'a jamais eu autant de musées, d'expositions, de festivals, de concours, de workshops, de lectures de portfolio, d'événements autour de la photographie. Et il y a de l'argent. Tout ça, c'est énormément d'argent, globalement. Et en fait, le photographe, celui qui est créateur de l'image, n'a jamais autant galéré, n'a jamais eu ce sentiment d'être que son travail est exploité, mais que le retour sur investissement, alors il n'y a pas que la presse, ok, la presse, mais il y a plein d'autres moyens de trouver des fonds. Et un jour, je me dis, je regarde un peu, je reçois tous les jours des mails, souvent de l'étranger, de concours. Et parfois qui se ressemblent. C'est le nom change, mais il faut payer 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars pour une photo, pour deux photos, 50 dollars pour 5 photos, pour envoyer par mail 5 photos pour participer. Et je me dis, mais au bout d'un moment, je me dis, et il n'y en a jamais autant maintenant. Et je me dis, mais c'est ouf! Déjà, de payer pour montrer son travail. Et là, en fait, on se retrouvait à de payer pour potentiellement gagner un prix. Et je me suis dit, mais en fait, effectivement, l'insculture, comme tu dis, est pour moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a une arnaque derrière. C'est quel est le pognon que l'insculture reçoit de tous ces prix? Je commençais à lister, ils ont une dizaine de prix. Ils font des workshops à 1 500 $. Le livre qui est édité des lauréats est payant, je crois que c'est 25 $. Et tout ça, c'est sur le dos de photographes qui je les comprends et je leur en veux pas. Et j'ai aussi participé à des prix payants, notamment au début. Parce que tu te dis, en fait, tu penses que c'est normal. C'est ça le problème, c'est qu'on pense que c'est... Parce qu'on me dit, oui, mais Les photographes n'ont qu'à pas payer, ils ont qu'à, c'est des crétins s'ils payent. Mais non, en fait, je les comprends. Déjà, ils pensent peut-être qu'on n'a pas le choix, que c'est normal, et que c'est une manière d'être reconnu. Et en fait, ça joue sur l'espoir potentiel, non seulement de gagner, comme au loto, et d'être vu, et d'être... c'est un peu comme si un boulanger, il paye pour faire son pain, il paye son loyer, il passe du temps, et il payait pour pouvoir participer... a une possibilité de vendre son pain, quoi. C'est non, en fait, il fait son pain et on lui achète son pain. Et en fait, nous, on se retrouve à devoir sans arrêt payer. Et tu te dis, mais en fait, c'est dingue, les perdants du prix photo payant, ce sont eux qui financent le lauréat. Parce que souvent, là, voilà, tu peux gagner $5,000, $10,000, parfois plus. Mais en fait, comment ils financent ça? Ils financent par ceux qui perdent, comme au loto. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est une entourloupe totale. Souvent, ces prix sont pas... Il y en a beaucoup, et ils sont pas reconnus. C'est-à-dire, ils sont pas reconnus dans le métier, dans la profession. C'est pas les plus grands prix prestigieux, que ça soit le Visa, les Visa d'or à Perpignan, que ça soit le World Press, que ça soit les Sony Awards, les plus gros prix, eux, ils sont gratuits. Pourquoi ? Et l'accès gratuit. Et c'est eux qui sont les plus soit rétribués, soit prestigieux. Et c'est eux qui vraiment... peuvent permettre à un photographe d'être reconnu. Et en fait, quand j'ai vu ces mails, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire le listing, je recevais tous les jours, il y avait soit un magazine d'art qui te proposait de payer 250 à 400 euros pour publier ton book dans ce fameux magazine prestigieux, etc., dont tu n'as jamais entendu parler. Et quand tu te renseignes un peu, en fait, c'est juste quelqu'un qui se dit, je vais faire un magazine, bon, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Ah, bah, je vais faire payer le photographe pour publier, pour que lui-même se publie. Et en fait, ça inverse totalement.
Des bonnes idées pour gagner.
Voilà, ça peut vous.
Il y a forcément un mec qui est sur YouTube qui est en train de faire une liste.
Il va dire, putain, je vais faire des interviews sur la photographie payante. Le mec, voilà, vous auriez pu me faire payer.
Vous savez pourquoi on ne veut pas payer?
Je me suis arrêté à une trentaine de prix. J'ai vu, il y avait une bourse. Il fallait payer 150 dollars de droits d'entrée. Et la bourse, c'était 2000 dollars. Les gars, en une dizaine de participants, ils financent la bourse qui n'est que de 2000 dollars. Et c'est 150 dollars. Juste pour envoyer ton putain de dossier par mail. Et ce qui est grave, parce qu'on me dit, on peut me dire, oui, bah écoute, si on est libre de payer ou pas payer. C'est vrai. Sauf que déjà, souvent ces prix, ils sont pris d'assaut soit par... des amateurs qui ont de l'argent, et c'est pas très grave, tu vois. Si le mec, il a 60 ans, il a son métier à côté, il a envie de se faire plaisir, pourquoi pas, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de jeunes qui débutent et qui se disent, c'est le seul moyen. Un peu comme les lectures de portfolio. Moi, quand j'ai commencé, les lectures de portfolio n'existaient pas. Et quasiment pas, et c'était gratuit. Là, on se retrouve avec dès qu'il y a un festival, dès qu'il y a un événement autour de la photographie, hop, on sort, lecture de portfolio, génial. Moi, que des professionnels regardent le travail de photographe pour les aiguiller, les orienter, tant mieux, parce que c'est un métier où on quand même, la plupart crèvent la faim, on gagne rien. La moyenne, je crois, d'un photographe, le revenu moyen, je crois que c'est 1400 euros, c'est le SMIC. Et là, on demande à des jeunes photographes, jeunes dans le métier, de payer 10, 20, 30 euros, voire plus, pour juste montrer son travail. Sachant qu'il a payé son appareil photo, il a payé ses négatifs ou il a investi du temps, ça fait peut-être des mois qu'il travaille sur ce sujet, donc il a déjà investi, on lui demande de payer juste pour qu'un professionnel donne son avis. Mais en fait, une fois de plus, c'est le photographe qui doit payer pour exercer son métier. Sachant qu'on paye déjà pour le produire, en fait. Ce qui est terrible, c'est que ça prend... ça pervertit tout, je pense. Bon, déjà, il y a le problème que quand tu es jeune photographe, tu n'as pas d'argent, tu te retrouves à payer 20-30 euros et puis tu as assez peu de chances de gagner. Si en plus tu gagnes, la plupart de ces prix, il y en a beaucoup, il y en a énormément, franchement. La plupart de ces prix ne sont pas reconnus. Donc en fait, ça t'apporte cette visibilité. En fait, elle t'apporte pas forcément quelque chose. Ou elle est interne à la plateforme. Et tu regardes un peu les lauréats, tu regardes les travaux, tu dis, en fait, ceux qui gagnent, c'est d'abord ceux qui ont payé. Ce n'est pas ceux qui ont un travail forcément le plus exemplaire. Et si tu veux vraiment te confronter à vraiment à des prix sérieux, avec vraiment des candidatures sérieuses, c'est les gros prix qui sont gratuits. Là, oui, et là, ça t'apporte vraiment quelque chose dans le métier. Ce qui est terrible aussi, c'est que je me dis, il y a des prix, tu peux gagner 100 000 dollars. C'est un prix aux Émirats. 100 000 dollars. Ça m'étonne pas. Ou 150 000 dollars. Le lauréat, le premier prix. Tu te dis, mais même gagner 5 000 dollars, il y a des... En fait, ça pervertit la photographie. Parce que je vois un peu ce qui est produit, ce qui gagne. C'est des photographies de voyage, toujours un peu le pêcheur avec son... en Thaïlande, là, sur la barque, avec le cormoran qui devient un peu un poncif en photographie. On a tous vu des images de coulisses, de workshops ou de groupes de 50 photographes alignés qui font tous la même photo. En fait, ça, c'est des gens qui, malins, se disent, en fait, il y a plein de photographes amateurs qui veulent faire de la photo, je vais payer des voyages, etc. Et ils se retrouvent à 50 photographes devant un paysan, devant un pêcheur. Donc, ça pervertit totalement, en plus, le voyage, le sens de la photo. Tu commences à voyager pour faire des photos, pour essayer de gagner des concours. Donc, du coup, tu es sûrement, pour 5 ou 100 000 euros, tu es prêt à mettre en scène. Et je me dis aussi, à l'étranger, quand tu es photographe du Bangladesh et que tu vois que tu peux gagner 5 000 ou 50 000 dollars. Mais c'est énorme. C'est énorme comme proportionnellement au revenu. Ouais. En fait, moi, à quoi tu es prêt à faire pour gagner ça, quoi ? Il suffit d'avoir une photo. Donc, forcément que tu mets ta photo en scène. Forcément que tu te retrouves. Et ce qui me gêne, moi, en tant que photojournaliste, c'est qu'il y a aussi du photojournalisme et avec des reportages sociaux, etc., de guerre, avec des photographes dont tu n'as jamais entendu parler et qui sont prêts à prendre des risques pour gagner cet argent, quoi. Parce que tu peux aussi gagner, quoi. Et si ta photographie, ton reportage est fort, tu peux aussi gagner, quoi. Et on se retrouve avec aussi une perversion de fabrique d'images, parce qu'on dit, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une masse de photographes énorme derrière. C'est une masse de production. Et cette production, elle joue énormément sur le tourisme. Quand on voyage, on voit cette production de photographes, mais aussi sur des poncifs, parce que les photographes vont sur les mêmes lieux, ils vont voir les mêmes peuplades, tu vois. Ils vont
dans le portrait du pauvre, mais quand même vaillant, etc., ridé, mais fort face à l'Asie.
C'est ça. Et qui, en fait, passe...
plus heureux que nous.
Tu vois, ouais. Alors, il y a 50 ans, quand un photographe partait dans la vallée de l'Omo faire photographier un peuple, ça déclenchait un ou deux ou cinq photographes qui, dans l'année, allaient refaire les mêmes photos parce que, c'est intéressant, j'ai envie de travailler là-dessus, j'ai envie de faire les mêmes photos. Mais en fait, maintenant, il faut se rendre compte de ce qu'est la photographie mondiale. C'est plus l'Europe et les États-Unis. C'est maintenant, au Bangladesh, il y a autant de photographes qu'en France. Et on se retrouve avec une perversion totale, avec des convois de touristes et photographes qui retournent faire exactement les mêmes photos, et donc ça devient... Et je crois que c'est Hans Sylvester qui a travaillé sur les tribus de la vallée de l'Omo. Son travail, en fait, a été vecteur de voyages organisés autour de la photographie, et qui viennent, en fait, photographier à longueur de journée ces peuplades sauvages qui fascinent, c'est trop... c'est exotique, mais en fait, ça a des conséquences sur les mœurs, sur le quotidien, etc. Et puis, ils se mettent à payer, parce que, attends, je suis là, je suis une journée, je vais faire une photo, il faut vraiment qu'elle cartonne, il faut qu'elle soit belle, parce qu'en plus, d'ailleurs, je peux gagner un prix à 10 000 $. Mais pour 10 000 $, bien sûr, tu vas la mettre en scène, ta photo, si t'as pas un minimum d'éthique et que c'est pas ton métier. Et donc, on se retrouve avec des choses, c'est une intime conviction, tu vois. Et je sais que ça existe, parce que j'ai vu des coulisses, j'ai vu des vidéos, mais je suis convaincu que derrière, il y a vraiment une situation, quoi, qui pervertit aussi ça, quoi. Donc, on se retrouve avec ce genre de choses. Je me perds.
On a compris le message et l'agacement derrière.
Je suis désolé, parfois. On pourrait dire que c'est pas très grave. C'est quoi ces prix, on les connaît pas, etc. Mais je me dis aussi, quand même, il y a quelque chose aussi de presque moral, c'est de me dire, mais qui sont tous ces gens qui créent des prix, parfois sur les mêmes modèles, donc qui copient-collent. Et en fait, combien de participants envoient ces 30 ou 50 dollars ? Quel est tout cet argent, quoi ? Et on demande encore à des photographes, et là j'élargis au prix, ou au workshop, ou au lecteur de portfolio, mais moi, souvent on me demande des photographies parce que, vous comprenez, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent. En fait, toute la journée, et pourquoi j'ai poussé un coup de gueule, c'est toute la journée, on essaye de baisser les prix, on essaye de savoir si je peux pas envoyer mes photos gratuitement. Ah, on aimerait bien utiliser vos photos, etc. C'est tout le temps, en fait, quand t'es photographe. Quand t'es boulanger, je reviens à cet exemple, il n'y a pas tous les jours des gens qui disent « Voilà, j'ai pas d'argent, pouvez me donner une baguette. Mais vous savez, je vais faire une photo, je vais la tweeter, je vais faire un fil Instagram et ça fera votre renommée. » Et en fait, ça fera parler de vous, parce que ça, cet argument aussi, tu l'as souvent. « Bah oui, mais c'est payant, mais regarde, derrière, on va voir ton travail va avoir de la visibilité. » Ce terme de visibilité est insupportable, parce que derrière...
On ne paye pas son pain en visibilité, quoi.
Voilà, et derrière, cette visibilité va amener une autre visibilité qui va jouer sur la visibilité, et en fait, au final, tu ne seras jamais payé. Donc, ce coup de gueule, c'est aussi un coup de gueule général aussi sur... il n'y a jamais autant d'argent dans la photographie, mais il n'y en a jamais aussi peu pour les photographes. C'est un peu ça que ça veut dire. Et c'est un peu... Attendez, stop, on va arrêter. Parce que ça influence... au début, on n'osait pas faire payer les lectures de portfolio. Maintenant, elles sont toutes payantes. Et l'argument, c'est bah oui, il faut bien payer le lecteur, celui qui est là pour. Mais bien sûr, je suis pour payer le mec.
Payez-le avec l'argent du festival.
L'icono ou le rédacteur, rédactrice qui va regarder ton travail. Mais débrouillez-vous pour trouver un autre moyen, un sponsor, de payer, de le faire payer. Demandez pas au photographe qui galère, qui dépense sans compter pour son métier et qui galère à vivre de ce travail, ne lui demandez pas de payer juste pour montrer. Parce que derrière, tu fais une lecture de portfolio, tu as un avis, parfois tu as un contact, parfois derrière tu as une parution, mais la plupart du temps, non. C'est ça, c'est un peu un coup de gueule général pour essayer d'inverser les mentalités. Je me suis un peu effectivement accroché à ces prix, parce que l'insculture, pour moi, j'y vois vraiment une espèce de... Je pense qu'ils se font un pognon dingue, parce que c'est quand même renommé. Et ce qui me désole, c'est que derrière, il y a New York Times, il y a des grands médias, il y a des grands photographes, des grands noms, et des grands noms de rédacteurs, d'icônes, etc., qui cautionnent. Alors parfois, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est aussi pour dire... Et moi, il y a une journaliste, il y a Clémentine Mercier de Libération, qui traite de la photographie, qui m'a contacté en me disant « Mais je découvre ça, en fait. Je découvre cette pratique, je découvre ce genre de situation. » Et il y a d'autres qui m'ont contacté en disant « Ah, c'est bien que tu en parles, parce que ça m'ouvre un peu les yeux. » parce qu'on pense que c'est normal au bout d'un moment de devoir payer pour faire de la photographie, mais non, en fait, on doit être payé pour quand tes photos, quand tu les exposes. Regarde, si on n'avait pas, si ça c'est je sais plus qui mais qui avait commencé à débattre du problème de Arles et Visa, les plus gros festivals qui ont des budgets de plusieurs millions, notamment Arles, qui ne payaient pas les photographes exposés. Mais c'est dingue, ils ont, je sais plus, Arles, je sais pas.
C'est hallucinant.
C'était il y a 3 ans. Arles, qui est le plus gros festival au monde, en tout cas en Europe, de la photographie, qui a plusieurs millions d'euros de budget, paye tout, celui qui fait les tirages, les hôtels, le vernissage, les lieux, l'équipe, etc., etc. Tout le monde est payé, celui qui fabrique les invitations, etc. Le festival est payant pour le public, mais le photographe, celui qui amène, qui donne son travail et qui fait vivre tout ça, n'était pas payé. Ça fait combien de temps que ce festival existe ? Et ils ont, je sais, je crois, je me dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est 40 millions de budget. C'est énorme. Et il n'y a pas un euro. Et maintenant, alors ça a gueulé il y a 3 ans, je crois. Le ministère de la Culture s'en est emparé et ils ont exigé que la moindre exposition, quel que soit le lieu, devait être rétribué à hauteur de 1 000 ou 1 500 euros. Et depuis 3 ans, on a un peu cette caution légale de dire, en fait, vous êtes obligé de payer.
Vous êtes obligé de faire un truc qui est moralement normal.
Mais ouais, c'est ouf. C'est comme si on disait...
De payer les gens,
c'est comme si l'État disait, maintenant, quand vous allez dans une boulangerie, faut arrêter de voler la baguette. Il faut la payer, quoi.
Bon, je pense que le message est passé. Ouais.
Donc, l'audience d'apprendre la photo...
Et la
tienne, ça s'appelle apprendre la photo, donc évidemment il y a plein de gens dedans qui ont des profils très très variés, mais dedans il y en a forcément qui peut-être aspirent à faire du photo-reportage, que ce soit peut-être qu'ils veulent faire de la photo de presse ou alors qu'ils veulent peut-être bosser sur des sujets plus longs comme ça. Si tu avais un conseil à leur donner ?
J'ai aucun conseil, parce qu'il ne faut jamais écouter les conseils d'un photographe.
Mais il vient de flinguer notre émission, quoi.
C'est surtout que j'ai plus de métier.
Non, mais... Alors, je m'explique, ça va être un peu plus long. En fait, le parcours d'un photographe ne vaut que ne vaut exemple que pour lui-même. C'est-à-dire qu'il y a autant de parcours que de photographes. et en fonction, en plus, non seulement du photographe, de son activité, de son caractère et de son époque aussi. Un photographe qui a 60 ans ne peut pas donner des conseils pour, en se basant sur ce qu'il a, sur sa, la manière dont
il... Alors que
notre époque, l'évolution de la photographie, de l'économie de la photographie, l'évolution des budgets, de la presse, là, il y a le Covid en ce moment, ça a des répercussions énormes. Donc ça n'aurait pas de sens de dire, bon, alors pour être photographe, il faut faire ça. On pourrait dire qu'il faut faire une école. Moi, je n'ai pas fait d'école. Et la plupart des photographes et tous les grands noms de la photographie n'ont pas fait d'école. Donc, souvent, moi, me demande, et les jeunes qui me contactent, « Ah oui, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Est-ce que... Je leur dis, moi, le seul conseil, le meilleur conseil, c'est en fait, c'est lance-toi et vas-y à fond.
Ah, tu vois que t'as quand même un conseil.
Eh ben, ne m'écoutez pas.
On l'a eu.
C'est bullshit. Non, mais si... oui, parce que je pense qu'il faut... Il faut regarder ce qui a été fait, évidemment, il faut regarder les grands maîtres de la photographie, de la peinture. Et après, il faut se dire qu'est-ce que je veux faire, il faut se poser la question qu'est-ce que je veux faire. Et à partir du moment où on est prêt à le faire, où on a envie de le faire, il faut y aller à fond. Mais il faut vraiment faut tout sacrifier pour ça. Mais vraiment, il ne faut pas y aller à tâtons en disant je vais y aller prudemment, je vais commencer par ça. Non, en fait, allez-y à fond, quoi. Vous ne mettez pas de barrière parce que c'est un métier où on peut réussir qu'en se donnant tous les moyens. C'est un métier de passion et comme c'est un métier de passion, de toute façon, un photographe ne le fera que mieux qu'avec sa propre passion, avec sa propre envie et sa propre motivation. Donc voilà, tu vois.
Bon bah merci Corentin de nous avoir accueillis, merci à l'IPP de nous avoir accueillis et merci à Corentin de nous avoir accordé une heure pour discuter de ça. Vous me connaissez, je parle beaucoup de livres photos, donc je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans vous conseiller de jeter un œil à ceux de Corentin, donc IT dont on a parlé, le dernier aux éditions Leitmotiv, donc on avait aussi parlé dans la vidéo avec Eric, et l'avant-dernier qui s'appelle Only Colored, aussi sur IT.
Aux
éditions Photo Paper, donc qui est dans un autre format qui est plus petit, qui est sur la photographie couleur haïtienne que je découvre aussi. Et le dernier n'est pas encore sorti, n'est pas encore là, mais on mettra un lien dans la description quand il sera disponible en ligne si vous voulez jeter un coup d'œil et suivre le travail de Corentin.
Non, mon dernier livre qui va sortir s'appelle Mon oncle est un génie aux éditions Photo Paper. Et c'est un travail qui est complètement différent de ce que j'ai pu faire auparavant. Déjà, c'est un travail en noir et blanc. C'est un travail qui est très intime, qui est documentaire, mais qui est aussi un travail qui se rapproche aussi d'un travail plus artistique qui est un travail sur mon oncle, qui est un personnage et la relation que j'ai avec mon oncle, l'intimité en tant que photographe. M'a permis en fait de raconter un peu ce personnage un peu en couleur, sa personnalité, c'est un travail sur la liberté, sur comment est-ce que on peut encore maintenant chercher la liberté, y accéder et se pousser à être plus que soi-même, quoi. Donc voilà, c'est un livre qui sort là en septembre et ça me tient à cœur d'en parler.
c'était le bon moment pour ça.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous sur laquelle vous pouvez laisser des commentaires. Pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préféré, c'est très important pour que ce format continue. Je vous dis à plus dans le prochain épisode et d'ici là, à bientôt et bonne photo.